The Indiana Colts have traded the 38th pick to the Atlanta Falcons. With the 38th pick in the 2023 NFL Draft, the Atlanta Falcons have selected Matthew Bergeron, guard, Syracuse.
Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Ormé-Just et c'est une édition spéciale. On va faire une revue du repêchage 2023 de la NFL. C'est un repêchage historique pour les joueurs québécois. Comme vous venez de l'entendre, entendre l'extrait sonore de la sélection de Matthew Bergeron par les Falcons d'Atlanta, bien, il y a également eu un autre joueur de ligne à l'attaque québécois qui a été repêché au cours du week-end. Il s'agit de C.D. Sarr, l'ancien du cégep Champlain-Lennoxville, ancien de l'Université Eastern Michigan, qui est un choix de quatrième ronde des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Alors, afin de parler du repêchage, de l'analyser, bien, Danny Desriveaux se joint à moi. Danny, on est ensemble jeudi soir lors de la diffusion sur les ondes de RDS de la première ronde. On se croisait les doigts là, une fois qu'on avait passé le 25e choix environ là, de la première ronde. On espérait que Matthew allait être sélectionné pour pouvoir en parler en direct, en ondes. Je vais dire malheureusement, mais écoute, je ne veux pas tourner ça en négatif parce qu'on savait qu'il avait de bien meilleures chances d'être sélectionné vers le début de la deuxième ronde qu'en première ronde, et c'est exactement qu'est-ce qui est arrivé. Les Falcons d'Atlanta qui ont complété une transaction afin de grimper au classement pour le repêcher. C'est à quel point ils le voulaient. Alors finalement, on connaît la destination de Matthew Bergeron. Il va jouer à Atlanta pour les Falcons. Alors dis-moi, comment tu as vu justement cette sélection de la part de la fierté de Victoriaville?
Ben c'est vraiment ça. Puis tu sais, je revois les séquences, puis j'en ai encore des frissons. Puis quand je vois ces séquences-là, puis les moments que lui a vécu le week-end dernier, je me rappelle un peu mon enfance, mes rêves. Tu sais, moi, j'ai commencé à jouer au football, là, ça va bientôt faire, ou avoir des rêves de football, ça va bientôt faire 30 ans, là, parce qu'on vieillit, là, puis j'ai encore des souvenirs de Chimanga Biakabutuka, qui avait été repêché en première ronde, puis qui avait inspiré des jeunes comme moi, comme plusieurs autres, puis on pensait peut-être que ça allait être le début de plein de joueurs repêchés en première ronde, puis ça n'a pas vraiment été ça, puis c'est juste pour souligner la progression qu'on a eue. Il y a beaucoup de gens, peut-être de mon époque, que les buts qu'il était fixé, c'était d'être peut-être un joueur non repêché qui signait un contrat d'agent libre dans la NFL. Après ça, on a eu des jeunes qui ont rêvé à être repêchés. Puis maintenant, on a des jeunes qui peuvent rêver et espérer être repêchés en première ronde, être repêchés haut dans les repêchages de la NFL. Donc, c'est bravo à ces gars-là, C.D. Sarr, Matthew Bergeron, tous les autres avant eux autres qui ont inspiré les jeunes. Puis de montrer que c'est possible, puis de montrer qu'il y a des preuves vivantes qu'on mérite d'être repêché aussi haut que tous les autres joueurs qui sont des États-Unis, qui développent et qui grandissent, qui rêvent de jouer au football dans la NFL. Donc, c'était vraiment excitant, inspirant de voir tout ça là, pour ces jeunes-là.
Ouais, la mentalité des jeunes footballeurs québécois a changé avec le temps, hein, comparativement à notre époque, comme tu dis. Nous, on rêvait bon peut-être de décrocher une bourse du côté d'une université américaine. Et puis après ça, on disait, bon, ben, si on joue dans la Ligue canadienne, ça va être tant mieux, mais on ne rêvait même pas de jouer dans la NFL. Du moins, moi, je n'y rêvais même pas. Mais des joueurs comme Matthew Bergeron, comme C.D. Sarr, après avoir vu les Anthony Auclair, Laurent Duvernay-Tardif, Benjamin Saint-Just, lors des dernières années, tu as mentionné le nombre de Chimanga, eux sont trop jeunes pour avoir connu Chimanga, mais ils sont inspirés par ça. Maintenant, quand je rencontre des jeunes joueurs de football qui jouent au niveau de l'école secondaire, eux, ils me disent carrément « Ouais, moi, j'aimerais ça jouer dans la NFL. » C'est un de leurs objectifs. La mentalité est complètement différente. Puis, si t'as pas cette mentalité-là, avec cette mentalité-là, ça augmente tes chances de te rendre, justement, jusque dans la NFL. Alors, écoute, pour Matthew Bergeron, bon, il a joué à la position bloqueur à gauche en 4 saisons pour l'Orange de Syracuse. On va voir ce qu'on va l'utiliser à la position de bloqueur ou de garde du côté des Falcons d'Atlanta, parce qu'il y a bien des gens qui croient que Matthew, sa meilleure position, c'est à celle de garde. Alors ça, ce sera à surveiller. C'est un gros bonhomme, hein. 6 pieds 5 pouces, 315 livres, extrêmement athlétique. Je suis pas inquiet pour lui. S'il demeure en santé, il devrait connaître une belle carrière dans la NFL. Il doit améliorer sa technique, mais c'est le cas de tous les jeunes joueurs.
Comme tout le monde.
Qui sont repêchés. C'est ça, exactement. Alors, écoute, j'ai hâte de voir la suite des choses. Et pour ce qui est de C.D. Sarr, on le connaît un peu moins. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un produit du cégep Champlain-Lennoxville. Il a joué à l'université Eastern Michigan. Il a été un choix de quatrième ronde par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Alors, qu'est-ce que tu as pensé là, de voir un deuxième joueur du Québec être sélectionné lors du repêchage au cours du week-end?
Bien, encore une fois, ça ajoute, puis lui aussi, son parcours est peut-être un peu différent, moins connu, mais un autre joueur qui a démontré là, qu'il avait les capacités. Puis, tu sais, si ma mémoire me sert bien là, du temps que j'étais à l'Université de Montréal comme entraîneur, tu sais, c'est un joueur qui a commencé comme joueur de ligne défensive. Tu sais, je me rappelle de lui, Team Québec, à Champlain, Lennoxville, les Team Canada. Tu sais, je pense que c'est un joueur qui est un joueur de ligne défensive qui s'est converti tardivement à la position de joueur de ligne offensive. Puis, on voit aujourd'hui cette transition-là lui a permis d'être repêché dans la NFL comme choix de quatrième ronde. Donc, évidemment, il a joué ligne défensive très athlétique. Fait que, dans le fond, ses qualités athlétiques lui ont permis là, d'en faire assez et d'être performant pour mériter d'être repêché. Donc, très content de le voir récompensé pour ses efforts, sa progression. Puis, avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, c'est un programme aussi historique, coaché par Bill Belichick. C'est le fun à voir là, des gens de chez nous qui vont pouvoir vivre ce genre d'expérience-là.
Oui, puis un peu comme Benjamin Saint-Just il y a 2 ans lorsqu'il avait été repêché en troisième ronde. Maintenant, Mathieu repêché au début de la deuxième ronde. Cédric Sarr repêché en quatrième ronde. C'est des joueurs qui vont faire l'équipe et qui devraient obtenir du temps de jeu éventuellement. Puis on verra si ça va être dès cette année, dès cet automne, mais ils devraient avoir une carrière dans la NFL. Ils n'ont pas été repêchés tard là, dans les dernières rondes. Alors, c'est vraiment admirable. Qu'est-ce qu'ils ont accompli là? C'est, en tout cas, moi, je suis vraiment impressionné. Puis surtout, lorsqu'on parle à Mathieu, j'ai eu la chance de l'interviewer quelques reprises depuis là, qu'il s'était joint à l'Orange de Syracuse. C'est vraiment un jeune homme brillant. Alors, on leur souhaite à tous deux la meilleure des chances. Puis on espère être en mesure de rejoindre Cédric Sarr éventuellement et de l'avoir comme invité au podcast de Sac du Cœur. Alors, on va se tourner maintenant vers les autres sélections qu'il y a eues, parce que bon, il n'y a pas manqué d'action lors du repêchage. C'est sûr qu'on va se concentrer un peu plus sur les joueurs qui ont été repêchés en première ronde, étant donné qu'on les connaît mieux que les joueurs qui ont été repêchés tardivement. L'équipe qui avait le tout premier choix du repêchage, c'était les Panthers à Caroline. Sans surprise, ils ont repêché Bryce Young. Je dis sans surprise parce que ça faisait déjà quelques semaines que des rumeurs circulaient qu'ils allaient repêcher de carrière de l'Université Alabama. Est-ce que tu crois que c'est le bon choix finalement que les Panthers ont fait avec la toute première sélection du repêchage?
Bien, le futur va le dire. C'est sûr que tout le monde va identifier son gabarit, sa stature comme l'élément là, qui mettait des doutes là, dans l'esprit, moi y compris. On connaît la NFL, la grosseur des joueurs de ligne défensive, la vitesse. C'est très difficile là, d'être un carrière qui va survivre à tous ces impacts-là et avoir une longévité dans la NFL, mais d'après moi, c'est Bryce Young, il a toujours été ce gabarit-là. Depuis qu'il est au secondaire, à l'université, dans le SEC, ça ne l'a jamais empêché de produire. Il a été très productif dans sa carrière universitaire. Puis évidemment, j'ai l'impression que pour que les Panthers fassent ces transactions-là, misent le tout pour le tout sur ce joueur-là, il doit avoir un élément d'intangible, des choses qu'on peut voir sur vidéo, peut-être des choses qu'on ne peut pas voir, mais qu'eux, ils ont été capables d'identifier en entrevue, en sorte que tout ça est plus grand et le bénéfice est plus grand que le mini désavantage de sa stature. Tu sais, on parle de son aspect de préparation, son calme, ses instincts. Puis c'est devenu une histoire d'amour, d'après moi, là, pour les Panthers, avec ce staff d'entraîneurs-là, que Bryce Young était le bonhomme pour mener ce vestiaire-là, puis mener le nouveau régime avec Frank Wright comme entraîneur-chef. Donc, c'est un peu ça. Là. Donc, on verra si c'est le bonhomme, mais la bonne chose, c'est qu'il n'aura pas à tout faire tout seul. Ils l'ont encadré, Miles Sanders comme porteur de ballon, Thielen, Hurst comme tight end. Donc, il va avoir de l'aide autour de lui là, pour augmenter ses chances là, qu'il soit la bonne personne pour ce programme.
Écoute, c'est simple. Dans le cas de Bryce Young, s'il mesurait 6 pieds 2, on n'aurait pas de conversation à ce sujet. Depuis la fin de la saison régulière au football universitaire, c'est certain que c'est lui qui aurait été le premier choix du repêchage. Il a quand même été, mais en fait, il n'y aurait pas de question à savoir s'il pourrait connaître du succès dans la NFL. Il est précis, il a un certain talent d'improvisateur également. Il est alerte dans la pochette. Il lance et décoche ses passes avec anticipation. C'est un leader. On dit de lui que c'est un travailleur acharné, qu'il prêche par l'exemple. Il a tout aimé de la part de Bryce Young, mis à part le fait qu'il mesure juste 5 pieds 10 pouces. C'est difficile de trouver des carrières de cette taille-là qui ont connu du succès. Pas juste qu'il mesure 5 pieds 10 pouces, mais parce que Russell Wilson, quoi, mesure 5 pieds 11 seulement, mais Russell Wilson, qu'on voit physiquement, il a l'air d'un demi à l'attaque. Il est plus costaud. Alors que Young, avant le camp d'évaluation de la NFL, avant le combine, On n'était même pas certain là, s'il allait peser au moins 200 livres. Alors, tu sais, on l'a vu hein, l'année dernière du côté de toi, Tagovailoa, la façon qu'il s'est fait projeter violemment au sol. Quand tu es aussi léger, que tu te fais plaquer par des joueurs de ligne défensive de 300 livres, des secondeurs de ligne tu sais, de 250 livres, qui sont très forts, très puissants physiquement, c'est là qu'il y a une crainte dans le cas de Bryce Young. Mais comme tu dis, il a toujours eu cette taille-là, il a toujours eu ce gabarit. Alors, il est habitué, mais les joueurs de la NFL sont plus gros, plus rapides, plus robustes, que même les joueurs qui jouent dans la conférence du SEC. Alors, ce sera à surveiller, mais moi, je suis d'accord avec cette sélection-là du côté des Panthers de la Caroline. Et au deuxième rang, ben, les Texans de Houston, eux, ils ont sélectionné le carrière C.J. Stroud d'Ohio State dans les semaines précédentes, le repêchage. Bon, il y avait des rumeurs comme quoi les Texans n'étaient pas intéressés à repêcher Stroud, mais finalement, c'était tout à fait faux. Mais on ne peut pas parler de la sélection de Stroud sans parler du coup que les Texans ont réussi d'année. Parce qu'ils ont complété une transaction avec les Cardinals de l'Arizona qui avait le troisième choix du repêchage. Donc, ils sont revenus immédiatement après pour sélectionner l'ailier défensif du Crimson Tide d'Alabama, Will Anderson. Donc, on va commencer par Stroud. Qu'est-ce que tu as pensé de la sélection de C.J. Stroud pour les Texans? On n'avait pas de carrière. On a essayé Davis Mills. On s'est rendu compte qu'il est limité. Mais maintenant, Stroud devrait être l'homme de confiance à Houston.
Ben, bon choix de Stroud. T'sais, l'affaire avec Stroud, c'est que production similaire à Bryce Young. Par contre, lui, il a un gabarit plus de la NFL. Il y en a beaucoup qui disaient que c'était probablement un des carrières les plus prêts à jouer dans la NFL. Donc, très bonne sélection. Je pense que du côté là de Ryan, puis les Texans, on a dit, on a une opportunité de repêcher un carrière. On aime le carrière disponible. On a l'opportunité de traiter la fondation offensive de notre programme avec notre sélection à la position numéro 2. Donc, ils ont identifié C.J. Stroud. Donc, carrière très similaire en termes de performance, les aptitudes. Plus athlétique, peut-être qu'on lui donne un peu de crédit, mais avec le bon gabarit qui fait en sorte que ça justifie là, qu'on le repêche au choix numéro 2. Puis, j'ai vraiment aimé la sélection de Will Anderson. Moi, j'avais un peu parié qu'à la position numéro 2, on allait repêcher Will Anderson parce que je croyais que c'était tellement une valeur sûre en termes d'un joueur défensif prêt à être efficace dès jour 1, chasser le corps, bien jouer, le jeu au sol, le bon athlète, la bonne personne. Moi, je pense que c'est vraiment un joueur que dans 10 ans, on va parler de. S'il n'y a pas de blessure, là, on va parler d'un joueur qui a été productif et qui est un des meilleurs de la NFL. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que Will Anderson, c'est un très bon choix. Fait que là, tu ancres ton attaque avec Stroud, tu ancres ta défensive avec Will Anderson. Tu as un entraîneur de Mecko Ryan qui commence armé. Puis je pense aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand tu repêches des joueurs hauts comme ça, des recrues de chaque côté du ballon, mais l'aspect contractuel, c'est qu'il va limiter à quelle vitesse tu vas devoir payer le maximum de valeur pour ces contrats-là. Fait que ça donne une fenêtre quand même de 4 à 5 ans pour laisser ces joueurs-là se développer sans que tu aies les contraintes contractuelles. Fait que ça aussi, c'est intéressant là, pour les Texans.
Will Anderson qui a été tellement productif tout au long de sa carrière avec le Crimson Tide. Puis pour les chasseurs de cas, habituellement, sont productifs dans les rangs universitaires. Ils trouvent une façon de l'être également du côté de la NFL. Il n'était pas un espoir là, du calibre de Von Miller ou de Miles Garrett qu'on a vu là être pêché, bon, il y a quelques années de ça, là. Von Miller, ça fait une décennie maintenant, mais quand même, il a été très productif. Moi, je m'attends à ce qu'il le soit également du côté de la NFL. Puis, il y avait des gens qui ont critiqué les Texans. Ils disent qu'ils ont trop donné pour repêcher un ailier défensif avec la troisième sélection. Mais de la façon qu'il faut voir ça, c'est que c'est comme ça qu'on avait payé ce prix-là pour repêcher Stroud. Parce que du côté des Texans, on voulait s'assurer qu'on avait un carrière. Peut-être qu'on préférait Will Anderson. Mais on s'est dit, si on repêche Will Anderson au deuxième rang, ben là, il y a peut-être une équipe qui va conclure une transaction avec les Cardinals au troisième rang. Puis là, ça va faire en sorte qu'on n'aura pas C.J. Stroud. On va se retrouver sans carrière. Alors, c'est pour ça qu'ils ont repêché Stroud en premier. Puis après ça, ils ont complété la transaction avec les Cardinals. S'ils avaient donné tout ça pour sélectionner Stroud, il n'y a personne qui dirait rien. Mm-hmm. Donc, c'est de cette façon-là, personnellement, que je choisis de voir la transaction complétée par Houston. Complétée, qu'est-ce que tu as dit? Ben, on a repêché un carrière, un ailier défensif, deux des quatre positions les plus importantes dans une équipe de football. Parce qu'on tente de reconstruire notre équipe à Houston. Naturellement, la position la plus importante en attaque, c'est celle de carrière. Après ça, c'est celle de bloqueur à gauche. En défense, c'est deux positions les plus importantes. Ailier défensif, chasseur de quart et demi de coin. Donc, on a été en mesure d'aller chercher deux joueurs à ces positions-là. L'année dernière, on avait repêché un demi-coin en première ronde. Question de savoir est-ce que ça va se traduire en victoire dès cette année du côté de Houston Ça, je suis pas certain parce que, bon, Stroud va être un carrière recrue. Les carrières recrues, plus souvent qu'autrement, c'est difficile pour eux. Mais ça m'amène à parler des Cardinals, avec qui les Texans ont complété la transaction. Parce que là, les Cardinals, avec cette transaction-là, si les Texans n'ont pas une bonne saison, les Cardinals d'Ali, là, ils pourront, parce qu'eux, ils vont être mauvais l'année prochaine. OK, Kyler Murray, il va peut-être rater toute la saison. Mm-hmm. D'Ali, les Cardinals vont peut-être avoir deux choix dans le top 5, là, ou peut-être même dans le top 3 du repêchage de la saison prochaine.
Ben oui, puis ils se sont bien positionnés. Puis dis-toi, deux choix dans peut-être le top 5, top 10, avec un Kyler Murray qui va être à 2 ans de sa blessure, donc il revient en pleine santé. Puis s'il y a l'opportunité de jouer peut-être la fin de la saison, peut-être la roue va être sortie. Donc ça se peut que ce programme-là va bien se repositionner pour la suite des choses. Peut-être pas pour 2023, mais 2024, ça pourrait être une saison très intéressante pour ce programme.
Oui, encore une fois, les choix repêchage, c'est bien beau, mais encore faut-il choisir les bons joueurs. L'exemple que je donne tout le temps, c'est lorsque les Browns avaient 3 choix de première ronde. Il y en a 2 là-dedans. Il y en avait un, c'était Johnny Manziel. Il y en avait un autre qui était un demi-coin dont le nom m'échappe. Et puis les deux, bon, comme on sait, ont été des flops monumentales. Alors, c'est pas juste avoir les bons choix repêchage, il faut sélectionner les bons joueurs. On va se tourner maintenant du côté des Colts d'Indianapolis, qui eux avaient la 4e sélection de la première ronde. Avant le repêchage, il y avait des rumeurs comme quoi qu'ils étaient intéressés aux carrières de l'Université Kentucky, Will Levis. Ça n'a pas été le cas. Ils ont arrêté leur sélection sur Anthony Richardson, qui est peut-être, Danny, l'énigme du repêchage. Il est extrêmement talentueux en termes d'atouts physiques, mais sur le terrain, seulement 12 départs, une saison comme partant. Puis, il a été imprécis là, très souvent avec les passes qu'il décochait. C'est quoi ton évaluation d'Anthony Richardson et du fait que les Colts ont sélectionné avec le 4e choix du repêchage?
Ben, mon interprétation, c'est qu'on mise sur le potentiel, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils ont misé sur des faits accomplis, la production, la performance, un haut niveau de passes complétées, une belle répartition de passes de toucher contre des interceptions. D'après moi, on mise vraiment sur le fait que tous les atouts physiques sont là. On a un entraîneur chef qui vient d'un programme à Philadelphie qui a vu comment encadrer un carrière comme Jalen Hurts. Donc, peut-être que cette combinaison-là va faire en sorte qu'on va être capable de maximiser le potentiel de Richardson. Donc, pour moi, c'est vraiment simplement sur ça qu'on se base. C'est peut-être qu'avec Minshew, on va pouvoir prendre notre temps aussi avec Richardson puis le rentrer tranquillement dans des packages avec un bon champ arrière. T'sais, Taylor est encore là, t'sais, donc ça enlève aussi beaucoup de pression sur à quel point on est obligé de lancer le jeune carrière ou de miser l'attaque 100% sur lancer le ballon. Donc, je pense qu'on va pouvoir y aller tranquillement. Je pense que l'expérience de Steichen va aider à la progression, mais c'est vraiment un jeu à long terme sur le potentiel de Richardson parce que, comme tu le dis, là, la performance à ce point ne justifie pas tous les atouts là, qu'on sait de Richardson.
Non, absolument, tu as tellement raison. Hein, parce que bon, physiquement, il fait penser à Cam Newton, à Josh Allen, mais également l'autre côté de ça, Terrell Pryor. Terrell Pryor, lui aussi, là, il courait un 4-3, je pense, au 40 verges. Même plus rapide qu'Anthony Richardson, un petit peu moins gros, mais quand même, il est un spécimen physique. Mais il n'a jamais pu s'ajuster à la NFL en tant que passeur, si bien qu'il a dû changer de position et jouer à la position de receveur de passe éventuellement. C'est sûr que c'est pas ça qu'on souhaite du côté des Colts. C'est certainement pas chez leur directeur général, Chris Ballard, pour qui là ça passe ou ça casse là, pour Chris Ballard. Là. C'est un homme qui a une bonne réputation à travers la NFL, mais là, les résultats n'ont pas été là lors des dernières années pour les Colts d'Indianapolis. Mais j'ai bien hâte de voir ça, le développement d'Anthony Richardson, parce qu'il semble qu'il est bien encadré avec le groupe d'entraîneurs-chefs qu'on a du côté des Colts d'Indianapolis. Les Colts sont quand même une équipe là, qui a du talent. Mm-hmm. L'année dernière, ça peut possiblement été la plus grande déception de la dernière saison. Tu as mentionné le nom de Jalen Hurts, avec qui l'entraîneur-chef des Colts a travaillé. Mais une chose de Hurts, à quel point il s'est amélioré, c'est parce que c'est un joueur qui est travaillant. C'est un travailleur acharné. On dit de lui qu'il arrive très tôt au site d'entraînement des Eagles de Philadelphie. Puis il faut pas oublier, tu sais, qu'il avait perdu son poste de carrière partant à toi, Tagovailoa, lorsqu'il était à Alabama. Alors ça, il ne l'a pas oublié. Puis ça le motive jusqu'à ce jour. Ma question, Danny, est-ce que Anthony Richardson a le même désir de vaincre, a la même éthique de travail, parce qu'il va devoir travailler énormément, parce qu'il n'est pas prêt à jouer, à contribuer immédiatement, à être un carrière partant dans la NFL. Je pense qu'on s'entend là-dessus. Alors, d'accord. Pour les jeunes joueurs qui sont aussi talentueux que lui, Danny, lui, ça a toujours été facile à tous les niveaux. Là, il a toujours été le meilleur athlète sur le terrain à l'école secondaire, lorsqu'il a joué pour les Gators. Mais là, quand tu arrives dans la NFL, surtout à la position de carrière, c'est pas suffisant. À quel point, justement, l'éthique de travail pour Richardson va être importante? Parce que ça, c'est quelque chose que nous, on ne sait pas.
Et puis, elle est très importante. Puis moi, si je suis Steichen, ben, j'utilise tout ce que je connais de qui a aidé à Hurts. Puis j'utilise toutes ces histoires-là. C'est, puis je lui raconte ça à Richardson. Je lui dis, écoute, moi, quand j'étais au bureau à Philadelphie, Hurts y arrivait le premier. Hurts mettait tant de niveaux d'effort. Hurts était ça. Il est devenu ça à cause de ça, ça, ça. Puis si tu veux dupliquer qu'est-ce qui s'est passé avec Hurts, je peux pas juste te donner la recette puis t'expliquer puis t'apprendre. Il y a beaucoup de choses que tu vas devoir faire par toi-même. Je pense que c'est des éléments qu'il faut utiliser comme source de motivation. Avec Richardson, pour dire, hey, écoute, l'ami, oui, t'es athlétique, mais regarde qu'est-ce que t'as fait dans la NCAA. Regarde tes statistiques. Voici ce que tu es. Nous, on veut t'amener à un autre endroit. Fait qu'il faut aussi avoir une discussion honnête avec Richardson, malgré le fait que t'es repêché quatrième au total puis t'as tous ces atouts-là. Voici ce que tu es réalistiquement, présentement, puis voici où est-ce qu'on veut t'amener, puis voici la recette, parce que je l'ai vu à Philadelphie.
Ouais, c'est un gros pari que les coachs ont pris, mais si tu es pour parier, puis on en avait parlé, toi et moi, lors du repêchage, ben, t'es mieux de faire un pari avec un joueur qui a de gros atouts physiques, là, un peu comme les Bills avaient fait lorsqu'ils ont repêché Josh Allen. Tu prends un carrière qui est plus grand, plus gros, plus rapide que tout le monde, qui a un bras puissant, t'espères qu'il va avoir l'éthique de travail et que tu seras en mesure de développer. Alors, on va voir ce que ça va donner. Ça va être intéressant, lui aussi, là, de suivre sa progression, là, comme plusieurs autres joueurs qui ont été repêchés au cours du week-end. Maintenant, on va se tourner du côté des Lions de Détroit, Danny, parce qu'avant le repêchage, pas avant le repêchage même, à la fin de la saison régulière, je me disais, OK, les Lions, avec la saison qu'ils ont connue, souviens-toi comment la saison régulière s'est terminée, match du dimanche soir au Lambeau Field, ils ont été en mesure d'éliminer les Packers, et Packers, s'ils avaient besoin de faire cette gagner, participer aux éliminatoires. On s'est dit, wow, les Lions vont être à surveiller la saison prochaine. Aaron Rodgers porte maintenant les couleurs des Jets de New York. Moi, je me disais, dès que la saison s'est terminée, je me disais, les Lions, avec un bon repêchage, s'ils se concentrent sur leur unité défensive, ils vont avoir l'opportunité peut-être de distancer les autres équipes de la section nord de la Nationale. Est-ce que tu penses, avec les sélections là, que les Lions ont fait en première ronde, est-ce qu'on n'a peut-être pas raté une opportunité justement de distancer les autres équipes de la section?
Je suis un peu d'accord avec toi. Tu sais, je pense que cette division-là est encore celle de Minnesota. Tu sais, je crois que Minnesota, en termes de fiche, talent, c'est encore l'équipe, la meilleure équipe de cette division-là. Je pense qu'ils ont manqué une opportunité peut-être de se rapprocher de Minnesota. Surtout que Minnesota n'avait pas plein de choix de première ronde. Puis t'as raison. Je pense qu'ils ont manqué leur coup d'adresser des problèmes. Je pense que Gibbs, aussitôt que ça dans le repêchage, je pense que c'est un reach, comme on appelle. Ils sont allés trop vite pour aller repêcher un porteur de ballon. T'sais. Campbell, je l'aime comme sélection. Ils ont repêché un joueur de ligne défensive un peu plus tard dans le repêchage, mais je pense qu'on avait une opportunité avec les choix qu'on avait de repêcher peut-être un des meilleurs demi de coin, un des meilleurs joueurs de ligne défensive, puis adresser des besoins qui étaient imminents pour cette organisation-là, puis on sort de là, puis ça n'a pas été fait. Donc, de ce côté-là, je pense que oui, ils sont un peu passés à côté.
Oui, moi, je m'attendais à avoir un repêchage où on allait se concentrer sur la défense. Puis bon, c'est pas juste la première ronde, mais le reste du repêchage, en particulier le front de la défensive. Oui, Jack Campbell, bon, il a gagné le trophée Butkus, qui est remis annuellement au meilleur secondaire de ligne au football universitaire américain. Mais c'est au niveau de la ligne défensive, je pense, en posant la position de plaqueur en particulier, je crois qu'on avait besoin de renfort. J'aime Jahmyr Gibbs, j'aime son talent, il est très explosif, c'est un jouet à avoir en attaque. Pour Jared Goff, on a vu, après avoir sélectionné Gibbs, ben, on a échangé DeAndre Swift aux Eagles de Philadelphie. Swift qui est talentueux, bon, de ce qu'il nous a démontré, c'est un meilleur receveur de passe qu'un coureur avec le ballon, mais toutefois, il est souvent blessé, donc on ne peut pas se fier à lui. Mais dans le repêchage, les demi à l'attaque, on peut en trouver très tard lors du repêchage. Isaiah Pacheco, c'était un choix de 7e ronde l'année dernière pour les Chiefs. Il a marqué un touché lors du match Super Bowl. Il est devenu un joueur important au niveau de l'attaque de Kansas City. Donc, c'est pas que j'aime pas Jahmyr Gibbs, mais c'est d'avoir sélectionné un porteur de ballon et un secondeur de ligne avec nos deux choix au repêchage. Ce ne sont pas nécessairement des positions d'impact, si on peut dire, je ne sais pas, pour une équipe qui avait d'autres besoins, surtout en défense. Mais on va voir ce que ça va donner. On a repêché Sam Laporta, Nelly Rapproché, ça c'était en deuxième ronde, d'Iowa, très athlétique, c'est un joueur que j'aime également. J'aime les joueurs, mais c'est plus au niveau de construire une équipe de football, là. Pas d'essayer d'avoir une équipe de fantasy football. C'est là la différence avec le repêchage. Il y a Brent Branch qu'on a repêché en deuxième ronde également, maraudeur. L'ancien du Crimson Tide d'Alabama, qui est vraiment tout un joueur. Je pense qu'il va jouer à la position de demi-coin intérieur, la position de nickel, peut-être à celle de maraudeur. Bref, c'est un bon joueur de football, mais j'aurais aimé, tu l'as dit, on a repêché plus tard un joueur de ligne défensive, mais qu'on le fasse plus tôt lors du repêchage. On va voir ce que ça va donner du côté des Lions, parce que l'année passée, combien de fois on les a vus là, jouer des matchs qui sont terminés, genre 38 à 35. Là, on dirait que ça va être un peu la même chose. Bref, on verra, mais écoute, la section Nord n'est pas très forte, la section Nord de la NFC. Tu as mentionné les Vikings. On sait, les Vikings, bon, c'était des fraudeurs. On l'a vu. Une fois qu'ils sont fait tailler en pièces par Daniel Jones en éliminatoire, on va voir ce que ça va donner au mois de septembre. Alors, on va se tourner maintenant du côté des Falcons d'Atlanta. Alors, les Falcons ont repêché l'excellent demi à l'attaque de l'Université Texas, Bijan Robinson. Encore une fois, on aime Bijan. Je pense que tu l'aimes toi aussi. C'est un des meilleurs espoirs à la position de demi à l'attaque lors des dernières années. Certaines personnes le comparent à Saquon Barkley. Je pense que c'est un meilleur receveur de passe même que Barkley. Mais de le prendre en première ronde dans le top 10, ça c'est une autre équipe là, qui n'avait pas de défense l'année dernière. C'était pitoyable. On a Algier, le demi à l'attaque recrue l'année dernière, un choix de cinquième ronde qui a gagné 1000 verges. C'est pas le meilleur porteur de ballon. Mais tout ça pour dire tous les besoins qu'on a. Est-ce qu'il fallait repêcher nécessairement un demi à l'attaque du côté des Falcons, Danny?
Je suis 100% d'accord avec toi. T'sais, on avait de la production avec Algier à moindre coût, qui ne nous avait pas coûté cher. Donc, on était capable de courir le ballon sans investir plein de dollars, plein de choix.
Et Cordero Patterson en plus. Ouais.
Et Patterson aussi. Donc, et évidemment, un peu comme Détroit, il y avait d'autres besoins. Puis, j'ai aucun doute dans mon esprit que Robinson va être un bon porteur de ballon dans la NFL. Par contre, j'ai l'impression que pour repêcher un porteur de ballon aussi haut ou en première ronde, qu'il soit l'élément manquant pour aller faire une course à un championnat. C'est pour que tous les autres éléments soient en place. Parce que on le voit, là, tu sais, les derniers gagnants de Super Bowl ou les gens qui se rendent loin en éliminatoire, c'est rarement avec un porteur de ballon qui a été repêché si élevé ou on a payé cher.
Ah, c'est vrai.
C'est souvent des porteurs de ballon, comme tu dis, là, au Chief avec Pacheco ou bien les Rams. C'est jamais des porteurs de ballon qui avaient été repêchés en première ronde parce qu'on a payé très cher. Donc, c'est pas ça la recette. Donc, à part si tous les autres éléments sont en place, t'as le carrière, t'as la ligne défensive, t'as les demi-points, puis ça tombe que t'as l'opportunité de repêcher l'élément manquant avec un porteur de ballon en première ronde, tu le fais. Sinon, l'histoire montre que t'es toujours mieux d'investir ailleurs là, tes choix de première ronde, puis tu vas trouver dans le restant du repêchage plus tard un porteur de ballon qui va être capable de produire, comme Alger a été capable de produire pour cette équipe-là. Donc, je comprends pas pourquoi ils ont dérogé de ça. Il aurait pu adresser beaucoup d'autres besoins avec ça.
Ouais, et puis surtout lorsque tu regardes les derniers repêchages des Falcons. Il y a deux ans, on a repêché Kyle Pitts, il est rapproché, qui est essentiellement un receveur de passe, géant. L'année dernière, Drake London, un autre receveur de passe. Là, cette année-là, un porteur de ballon. C'est pas la meilleure façon de construire une équipe de football. Là. Quand tu commences avec des joueurs sur le périmètre, un porteur de ballon, au moins on a repêché Mathieu Bergeron en deuxième ronde, parce qu'on avait vraiment besoin d'aide au niveau de la ligne d'attaque. Mais la ligne défensive, on n'a toujours pas de chasseur de quart. Je sais qu'on a repêché un ailier défensif de Ohio State, mais lui, c'est sur son potentiel. Il n'a pas été un joueur productif durant sa carrière à Ohio State. Il a même été décevant. Donc, c'est ça, là. Qui va chasser le carrière? Qui va arrêter la course contre les Falcons encore une fois? Là, ça commence à faire quelques années qu'on pose ces mêmes questions-là. Puis on n'adresse pas ça tôt lors du repêchage. En tout cas, je pense que c'est une opportunité ratée un peu pour Atlanta. La section sud de la nationale est très faible. Le meilleur carrière, c'est Derek Carr avec les Saints. Donc, écoute, je pense que ça va encore une fois, l'équipe qui va terminer au premier rang va possiblement avoir une fiche de 8 et 9, encore une fois, comme l'année dernière avec les Bucks. Peut-être qu'ils seront dans le coup en courant avec le ballon avec Bijan Robinson. Bref, on verra. Maintenant, du côté des finalistes du Super Bowl, les Eagles de Philadelphie, plusieurs experts à la suite du repêchage sont empressés de féliciter le DG des Eagles, Harry Roseman, pour ses sélections. En première ronde, on a repêché Jalen Carter, le plaqueur des Bulldogs de Georgia. Bref, là, tous les ans, on repêche les joueurs de Georgia là, du côté des Eagles de Philadelphie. C'est quand même rendu une farce maintenant. Puis il y a Nolan Smith, un autre ancien de Georgia qu'on a repêché également en première ronde. On avait deux choix de première ronde. Donc, tout le monde félicite Harry Roseman. Mais toi, est-ce que tu crois que c'est réellement mérité? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es en amour avec le repêchage des Eagles? Bref.
Et moi, je pense que il n'y avait pas beaucoup de faiblesses du côté de cette équipe-là. Cette équipe-là était à une demi de mieux jouer, d'être les champions du Super Bowl, puis elle allait quand même avoir les choix qu'ils ont eu. Donc, on s'est amélioré, on a ajouté de la profondeur, on a ajouté un choix de valeur, parce que si ce n'était pas des problèmes hors terrain de Carter, c'est probablement un choix top 5 au repêchage. Donc, on a été capable de l'avoir au choix numéro 10 ou 9, là, si je ne me trompe pas. Puis, on a encore ajouté de la profondeur, puis on a des joueurs de ligne défensive, malgré le fait qu'ils sont très bons, mais qui sont vieillissants aussi. Là. Graham, Cox, c'est plus très jeune. Donc, on a amené de la profondeur sans se départir des joueurs qu'on avait qui étaient là. Fait que ces joueurs-là vont pouvoir guider les plus jeunes. On va rester bon, on va amener de la rotation. Puis, peut-être que où est-ce que je vais lui donner du crédit, c'est. Puis je me demandais comment il y avait eu le choix là, le choix des Saints, puis c'était quoi cette transaction-là. Puis tu sais, je suis allé voir, l'année dernière, ils ont fait une transaction, puis que je ne me rappelais pas, mais tu sais, il y avait donné aux Saints, je pense, le choix 16, le choix 19, puis le choix de sixième ronde pour avoir de l'année dernière. Exactement. Fait que les Saints ont utilisé ces choix-là pour aller chercher Olave, mais qu'est-ce que Philadelphie avait reçu en 2022? C'est le choix 18. Un choix de troisième ronde et un choix de septième ronde en 2022. Et le premier choix de cette année et un deuxième choix de cette année. Donc, les choix que Roseman a reçus ont aidé à avoir Brown par la transaction pour Brown et ont aidé pour avoir Carter et Smith. Donc, ça, c'est la bonne gestion de capital de repêchage et de la bonne utilisation. Pour ça, je dois lui donner du mérite et du crédit. Là. En plus de l'échange de Swift, ouais. Oui, on parlait de Swift tout à l'heure, là, que peut-être oui, il est blessé, mais comme joueur sur qui on va pas mettre tout sur ses épaules, puis tu ajoutes ça à une équipe qui est déjà bien nantie, je pense aussi là, c'est un bon coup là, de Roseman.
Ouais, ben la clé, ça va être Jalen Carter. On sait qu'il est talentueux. Bon, tu as parlé de ses problèmes hors terrain, l'accident, la route qu'il a eu, il y a deux de ses amis qui ont perdu la vie. Moi, je vous pose la question vraiment, est-ce que mentalement, il est remis de ça? Parce que je sais pas si tu te souviens, lorsqu'il a eu son Pro Day, il est arrivé, il n'était pas en forme, il avait pris du poids. Puis bon, c'est comprenable avec tout ce qu'il a vécu lors des dernières semaines, mais tu parles d'un jeune de 21-22 ans qui a perdu deux de ses amis. Ça laisse des séquelles. Donc, mentalement, est-ce qu'il va se remettre de ça? Et aussi, lorsqu'il était à Georgia, ça c'est sorti dans les semaines avant le repêchage, il fallait vraiment l'encadrer. T'sais, on avait quelqu'un qui le suivait, qui s'assurait qu'il arrivait aux rencontres à l'heure, qu'il arrivait aux entraînements à l'heure. Donc, il y a beaucoup d'immaturité de son côté. C'est une des raisons pour laquelle il y a d'autres équipes qui repêchaient avant les Eagles, qui avaient des besoins à la position de plaqueur, que ce soit les Seahawks de Seattle, les Lions de Détroit. Je crois que c'est pour ça qu'ils ont dit, « Savez-vous quoi, Jalen Carter, il est talentueux, mais on préfère aller chercher des joueurs qui n'ont pas autant qui sont pas entourés d'autant de points d'interrogation, si tu le veux bien. » Donc, ça, ça va être à surveiller, mais au moins, il va être entouré de plusieurs de ses anciens coéquipiers. J'ai parlé de Nolan Smith. Il y a Jordan Davis qui est là, qui avait été repêché l'année dernière. Kobe Dean également, qui avait été repêché l'année dernière, secondeur de ligne, et les vétérans que tu as mentionnés. Donc, lui, s'il ne connaît pas une bonne carrière, s'il n'est pas en mesure de se replacer dans le bon chemin, ben là, il va juste avoir lieu à blâmer ou à peu près, puisqu'il arrive vraiment dans une excellente situation. Et pour ce qui est de Nolan Smith, leur deuxième choix de première ronde, personnellement, je suis pas un fan. Très rapide, très explosif, un chrono de 4 secondes et 38 centièmes, si je me souviens bien, aux 40 verts, mais pèse moins de 240 livres à position de secondeur de ligne. Ben, pas de secondeur de ligne, on veut l'utiliser comme un chasseur de quart. On compare beaucoup à Hassan Reddick, qui joue avec les Eagles. Je suis pas convaincu, moi, qu'il va connaître succès dans la NFL. Surtout contre le jeu au sol, même comme chasseur de quart, j'ai pas vu un joueur qui avait un arsenal de techniques de main pour battre les joueurs de ligne à attaque. Il a sa rapidité, mais ça prend plus que ça, comme tu sais, dans la NFL. Alors, en tout cas, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Écoute, notre dernier sujet, on peut pas se quitter sans parler de Will Levis. J'ai mentionné son nom tout à l'heure. Pauvre gars, hein? C'est pas facile durant la première ronde d'année, on le voyait constamment à l'écran. Il y a des rumeurs comme quoi il pouvait être sélectionné avec le deuxième choix du repêchage. Ces rumeurs-là, je les trouvais tellement farfelues. Je dis pas ça maintenant parce que Levis a été repêché en deuxième ronde. Mais avant même le repêchage, je me disais, voyons donc, qui va repêcher Will Levis dans le top 10? Même en première ronde, je trouvais que c'était tiré par les cheveux. Finalement, il a passé la soirée à attendre. Puis là, il a été sélectionné en deuxième ronde par les Titans du Tennessee. Ma question concernant Will Levis, il n'est pas un peu une création des médias. Ce que je veux dire par là, souviens-toi l'année dernière, avant le repêchage, les médias, les analystes de repêchage, arrêtez pas de nous parler de Malik Willis. Ah, Malik Willis, ça va être repêché en première ronde. Finalement, il a été repêché en troisième ronde par la même équipe, les Titans du Tennessee. Puis lorsqu'on a fait appel à ses services, lorsque Ryan Tannehill s'est blessé, on s'est rendu compte qu'il n'était pas prêt. Ça, on savait avant le repêchage. T'sais, il a joué à l'Université Liberty dans un plus petit calibre, une petite école, qu'il était un projet. Mais malgré tout, les médias nous disent qu'il doit être repêché en première ronde. Là, ça a été la même chose avec Will Levis, notamment avec Mel Kiper du réseau ESPN. Mel Kiper que j'adore. Sans Mel Kiper, le repêchage de la NFL ne serait pas qu'est-ce qu'il est présentement. Mel Kiper était une des premières personnes qui arrivait avec son mock draft. Il était un des premiers analystes du repêchage. Bon, il faut lui donner crédit. Moi, je l'aime bien. Mais là, lui, depuis le mois de février, il dit « Ah, Will Levis, en carrière de concession. » Je suis comme « Wow, un instant. Où est la production? » OK, je sais qu'il a été ennuyé par une blessure un pied de l'année dernière avec les Wildcats, qu'il n'était pas bien entouré. Mais moi, je ne le vois pas comme étant un bon carrière. Bref, qu'est-ce que tu penses du cas de Will Levis? Son attente interminable, le pauvre, qui avait la caméra dans le visage tout le temps en compagnie de sa petite amie. Puis, est-ce que tu penses qu'il sera en mesure de devenir un bon carrière dans la NFL pour les Titans?
Bien, évidemment, puis c'est pour ça que toutes les mock drafts et les projections ne sont pas faits par des évaluateurs, les scouts, les directeurs généraux. Mm-hmm. C'est pas eux autres qui sont sondés pour créer les mock drafts. Les mock drafts sont créés par des journalistes, des analystes comme moi puis toi qui n'ont pas les réponses puis la capacité de creuser puis faire les interviews des joueurs puis d'aller poser des questions aux entraîneurs puis de regarder la vidéo avec toutes les séquences puis analyser là, jusqu'au détail près là, la valeur de chaque joueur. Donc, moi, je pense que c'est ça qui ne ment pas en fin de compte. La production n'était pas là. Puis le potentiel ne justifie pas de ignorer la production pour le repêcher au CLV. Donc, pour moi, ça va être un projet. Puis même Vrabel l'a déclaré, tu sais, il a été repêché en deuxième ronde, mais la depth chart que lui a déclaré, c'est quand même Tannehill, Willis, puis Levis. Donc, il arrive en camp d'entraînement comme troisième quart. Donc, il n'a même pas encore été identifié comme un meilleur quart que Malik Willis dans ce programme-là. Donc, c'est pour dire... tout est à bâtir pour lui, tout est à être mérité pour lui. Il va devoir faire ses preuves. Et il arrive là avec aucun acquis. Donc, c'est fou de passer de tout ce qu'on a entendu avant le repêchage à il se fait repêcher puis il devient le QB numéro 3 dans son organisation alors qu'on a vraiment lancé la serviette sur Willis, puis potentiellement Tannehill aussi. Puis il est quand même le troisième quart dans cette organisation-là. Donc, c'est ça la vérité, mais... Il n'y a pas d'importance de où tu as été repêché, à quel niveau, à quel moment, aucun entraînement. C'est pas écrit sur ton chandail, c'est pas écrit sur ton casque. S'il performe puis il prouve qu'il est capable de s'améliorer, ben il va avoir qu'est-ce qu'il mérite, puis il va jouer. Puis s'il ne performe pas, ben il sera un carrière de troisième plan qui va rouler sa bosse dans la NFL. Donc, il va avoir son opportunité de prouver aux gens c'est quoi sa vraie valeur.
Oui, écoute, j'ai sorti mes notes, là, les notes que j'avais préparées pour notre soirée de jeudi. Sur Will Levis, étant donné que je ne les ai pas utilisés jeudi, puisqu'il n'a pas été repêché en première ronde. Je vais les lire ici, si tu me le permets. Écoute, Levis, un produit de l'Université Kentucky, 6 pieds 4 pouces, 229 livres. Première chose que j'ai écrit, quart étoile ou flop? OK, ça, c'est la question qu'on se pose à savoir à son avenir. Écoute, c'est un joueur qui n'est pas poltron dans la pochette, mais des fois, justement, il reçoit des sacs et il reçoit des coups inutilement parce qu'il conserve trop longtemps le ballon. Mais toi, on ne peut pas lui reprocher d'être un peu heureux. C'est un très bon athlète. Il a des talents de coureur. On l'utilisait même. Il a commencé sa carrière à Penn State avant de changer d'école pour aller au Kentucky. Puis on l'utilisait comme pratiquement un porteur de ballon avec des formations Wildcat. On l'utilisait près de la zone des buts. C'est pour ça qu'il avait marqué quelques touches au sol lorsqu'il portait les couleurs des Nittany Lions. Il possède un bras canon, mais il manque de doigté sur certaines de ses passes. En carrière, Danny, 46 passes de toucher contre 25 interceptions. Pas un excellent ratio. On questionne sa prise de décision, l'emplacement du ballon sur ses passes est déficient très souvent. Il est imprécis. L'année dernière, il a été ennuyé par une blessure à un pied. En 2021, il a marqué 9 touchés au sol. Encore une fois, il est très téméraire. Il court des fois, il devrait sortir à l'extérieur des limites du terrain. Il joue avec la mentalité d'un secondaire de ligne, mais il prend des coups pour ça. Puis tu sais, dans la NFL, il n'y a aucun carrière qui va survivre à ça. Tôt ou tard, ça te rattrape. Même Cam Newton, qui avait l'air d'un ailier rapproché, éventuellement, ça l'a rattrapé, là, tous les coups qu'il a absorbés. Sa motion n'est pas très fluide parce que c'est un joueur qui passe beaucoup de temps dans la salle de musculation. Puis pour un carrière, c'est pas nécessairement ça que tu veux. Tu veux un carrière qui a le haut du corps, qui est flexible, qui a une bonne mobilité avec ses articulations pour décocher des passes précises. Puis il y a également ses réseaux sociaux. Bon, c'est un joueur qui C'est une personne qui met de la mayonnaise dans son café. Je sais, ça paraît complètement ridicule. Si vous ne croyez pas, vous pouvez aller regarder, faire des recherches sur Google. Vous allez trouver des vidéos de ça. Il boit son café en mettant de la mayonnaise. Je ne sais pas comment il a commencé à faire ça. Mais il semble faire beaucoup de choses pour avoir de l'attention. Il y a des vidéos de lui qu'il a mis sur ses réseaux sociaux. Il mange une banane avec la pelure de la banane, Danny. Il croque dans la banane sans même enlever la pelure. Plusieurs photos de lui torse nu qu'il met. Écoute, c'est pas ça que tu veux voir nécessairement de ton carrière, il me semble. Tu veux pas quelqu'un qui est à la recherche d'attention comme ça, non? Est-ce que je me trompe? Puis ça, c'est ça. C'est à la suite de toutes les choses sur le terrain que j'ai énumérées. Puis tu parlais des entrevues. Apparemment, ces entrevues, ça n'a pas bien été avec certaines équipes. Certaines équipes étaient « turn it off », si tu me permets l'expression en anglais, par sa personnalité. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça, là? Parce que c'est quand même assez particulier.
Ce livre, puis j'étais pas au courant à quel point ses réseaux sociaux étaient diversifiés et intéressants.
Il veut des views puis des likes, il doit en avoir, j'imagine, mais bon.
Je sais pas à quel point ça nuit dans son repêchage, là, mais c'est une autre chose que j'ajouterais à ton évaluation de lui là, en pré-repêchage, c'est le fait que il jouait dans une très bonne conférence, mais il manquait à son répertoire, à son CV, des grosses performances contre des bonnes équipes. On n'avait pas vu ça où est-ce qu'il y avait vraiment 1000 équipes sur ses épaules, avait eu des belles statistiques, des grosses victoires. Ça non plus, si ça n'arrive jamais, puis on ne voit jamais ça, ça aussi c'est une source d'inquiétude là, parce que c'est quand même un très bon niveau de compétition. Puis la majorité des gens contre qui il joue dans une base hebdomadaire dans cette conférence-là, ben c'est des gens contre qui il va jouer dans la NFL. Donc de ne pas voir ça dans son CV, ça aussi c'est un élément inquiétant là dans son profil, dans son CV, pour savoir est-ce qu'il méritait vraiment d'être repêché aussi élevé. Puis comme tu dis, l'aspect potentiel, le plafond non plus, ça c'était pas là. Donc pour toutes ces raisons-là, je comprends pourquoi il n'a pas été repêché aussi élevé là, puis qu'il a terminé en deuxième ronde.
Ma comparaison pour lui que j'ai écrit dans mes notes, tu sais qui j'ai écrit? Carson Wentz. C'est Carson Wentz qui me fait penser. Puis dans la description que j'ai donnée, oui, il peut faire des gros jeux, il a un bras puissant, mais il est téméraire, se fait blesser à cause de ça, prend des coups inutilement, prise de décision par moment. Fait en sorte qu'on se gratte la tête. Donc moi je vois beaucoup de similitudes à Carson Wentz. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Tannehill est âgé de 35 ans maintenant, mine de rien. Donc, il commence à avoir du kilométrage. On va voir si Malik Willis... Moi, je veux pas lancer la serviette dans le cas de Malik Willis. Écoute, il peut toujours se développer. Il était très jeune, il n'avait pas d'affaires sur le terrain l'année dernière. On va voir qu'est-ce que ça va donner, le développement de Will Levis. Mais personnellement, moi, je crois pas qu'il va devenir un bon carrière numéro un dans la NFL. Mais écoute, qu'est-ce que je sais? On verra bien. Le temps nous le dira. Bon, ben écoute, Danny, on a fait le tour de notre édition spéciale du podcast, de la revue du repêchage de la NFL. La saison de football est à nos portes. Peut-être pas du côté de la NFL, mais du côté de la Ligue canadienne de football. Le camp d'entraînement des Alouettes va commencer le 14 mai. Ça s'en vient, Danny. C'est dans deux semaines. Je vais être à Trois-Rivières en train de couvrir des vrais entraînements de football. J'ai hâte. C'est incroyable. La saison morte à tous les ans, elle passe vite. Alors, les Alouettes ont un nouveau propriétaire, Pierre-Carl Péladeau. Donc, beaucoup d'engouement au sein de l'organisation montréalaise. Nouveau carrière, Cody Fajardo. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Bref, on va avoir le temps de parler des Alouettes au cours de l'été. Mais toi et moi, on va se retrouver mardi soir, étant donné qu'on va diffuser sur le rds.ca le repêchage de la Ligue canadienne de football. Puis on va avoir des invités. Au cours du repêchage, Danny, on va voir Marc-Antoine Decoy des Alouettes va venir faire un tour pour nous jaser justement de la saison morte, de la saison à venir des Alouettes. Enoch Mwamba, secondeur de ligne des Argonauts de Toronto, joueur par excellence du dernier match à Green Gray. Lui, il a passé une saison morte très occupée à Toronto. Là, il était partout au match des Raptors, à l'hôtel de ville, après la conquête de la Coupe Grey par les Argonauts de Toronto. Également, Marco Dubois du Rouge et Noir d'Ottawa qui sera là durant notre diffusion du repêchage sur le site web de RDS. Alors, bien sûr, Danny, on invite les gens à venir nous voir mardi soir dès 20h pour le repêchage de la Ligue canadienne. Les Alouettes ont deux choix première ronde. Alors, ça devrait être intéressant. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis j'ai hâte au début de leur camp d'entraînement. Ça va faire du bien de voir du football. Alors, écoute, Danny, je te remercie de ton passage au podcast, de m'avoir accompagné pour faire une revue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça a été une partie de plaisir de travailler avec toi jeudi soir. Puis là, c'est bien qu'on puisse regarder faire un petit coup d'œil sur le repêchage, parce qu'on en parle tellement dans les semaines avant le repêchage de ces espoirs-là, puis là, on sait maintenant pour quelle équipe ils vont jouer. Maintenant, on va patienter, voir quel genre de carrière ils vont avoir. Alors, écoute, je te laisse y aller, je sais que tu as une journée très chargée, et puis on se voit mardi soir pour le repêchage de la Ligue canadienne. Pour les gens qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés, bon, on vous remercie de télécharger le podcast Sac du Cœur. Et on se reparle au cours des prochaines semaines. Une fois que le camp d'entraînement des Alouettes va commencer, on sera là de façon hebdomadaire. Passez une bonne semaine.